RFI 13h, ici à Paris, midi, en temps universel.
RFI midi.
Un nouveau journal présenté par Florent Guignard. Bonjour Florent.
Bonjour Grégoire, bonjour à toutes et à tous. À la une, les retrouvailles russo-américaines en Arabie Saoudite. Nous serons dans un instant en direct de Riyad pour les premières informations sur ce sommet inédit depuis 3 ans entre la Russie et les États-Unis, depuis le début de la guerre en Ukraine. Alors que Moscou espère une levée rapide des sanctions. Également dans ce journal, Israël maintient ses positions dans 5 lieux stratégiques du Sud-Liban. Le Liban dénonce une occupation. Israël, par ailleurs, annonce le début des négociations pour la 2e phase de l'accord du cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Nous serons dans ce journal en direct avec notre envoyé spécial à Jérusalem. On évoquera aussi la vaste campagne policière en Turquie. 300 membres du PKK ont été arrêtés alors même que le gouvernement d'Ankara négocie la paix avec le parti des travailleurs du Kurdistan. Et puis, nous entendrons à la fin de ce journal le prix RFI Découverte 2025.
RFI Midi.
La Russie dicte ses conditions sur la fin de la guerre en Ukraine.
Oui, ce sont quelques déclarations ce matin du porte-parole du Kremlin qui affirme que Vladimir Poutine est prêt à discuter avec Volodymyr Zelensky si c'est nécessaire. Moscou ne voit pas d'obstacle à une adhésion de l'Union européenne, une adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, mais Moscou met son veto à une adhésion à l'OTAN. C'est donc ce que disait tout à l'heure le porte-parole du Kremlin, alors même que des Russes et des Américains célèbrent leur retrouvaille à Riyad en Arabie Saoudite, face à face entre Sergueï Lavrov, le vétéran de la diplomatie russe, et le tout nouveau secrétaire d'État américain, Marco Rubio. Rencontre à ce niveau inédite depuis 3 ans, depuis que la Russie a attaqué l'Ukraine. On retrouve tout de suite notre correspondant à Riyad, Joseph Clément. Joseph, que sait-on des discussions qui ont démarré ce matin ?
Eh bien, pas grand-chose pour le moment, car cette réunion entre Russes et Américains est porteuse de tous les espoirs concernant la paix en Ukraine, mais cette réunion est restée cernée par la discrétion de ses négociateurs. Sergueï Lavrov et Marc Rubio n'ont rien dit face aux caméras avant de commencer leur discussion. Alors, dans ce rendez-vous qui est plus européen et ukrainien, pourtant concerné directement par les discussions entre les deux géants, que peut-il bien en sortir ? D'un côté, un président américain qui a fait campagne sur sa capacité à régler le conflit ukrainien en 24 heures, et de l'autre, un président russe qui a déjà fait mine de négocier la paix pour mieux continuer la guerre. L'issue des discussions est encore incertaine. On attend éventuellement une prise de parole des différents partenaires, hein, entre Sergueï Lavrov et Marc Rubio, même si on ne sait pas encore s'ils s'exprimeront en face de la presse. Et puis sinon, une piste à suivre dans la presse saoudienne ce matin. La rencontre d'aujourd'hui entre Marc Rubio et Sergueï Lavrov devrait être une préparation à un véritable sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine, mais tout ça demande encore confirmation.
Joseph Clément en direct de Riyad.
Parmi les espoirs de la Russie, une levée rapide des sanctions prises après l'invasion de l'Ukraine contre la Russie.
Et des progrès d'ici 2 ou 3 ans. Justine Fontaine, ce sont les attentes affichées ce matin par la délégation russe présente en Arabie Saoudite.
Oui, le patron du fonds chargé des investissements étrangers en Russie, Kirill Dmitriev, a dit depuis Riyad attendre des progrès d'ici 2 ou 3 mois sur le volet économique. Et pour convaincre Washington d'assouplir les sanctions contre Moscou, il vise le portefeuille. Les entreprises américaines ont perdu 300 milliards de dollars en quittant la Russie, disait-il ce matin. Un chiffre largement surévalué, mais l'argument peut parler à Donald Trump, qui est toujours dans une logique transactionnelle, Florent.
Il faut dire que Kirill Dmitriev connaît bien les États-Unis.
Il a étudié là-bas, il a même travaillé pour la banque Goldman Sachs et le cabinet McKinsey. Ensuite, après son retour en Russie, il a aussi aidé Moscou à nouer des contacts avec Donald Trump lors de son premier mandat. Ce matin, le Russe saluait ainsi, je cite, « l'efficacité de l'équipe Trump pour résoudre les problèmes ». Mais derrière ces compliments, un assouplissement des sanctions favoriserait surtout la Russie. Car même si Moscou les contourne en partie, ces sanctions s'ajoutent aux dépenses énormes liées liées à la guerre. L'inflation approche des 10% et les perspectives de croissance pour cette année sont moroses.
Justine Fontanu, service économie de RFI.
Et le Liban dans l'actualité aussi. Et les Européens, pardon, excusez-moi, dans tout ça, Florent.
Eh bien, les Européens isolés par les États-Unis, sous le regard très bienveillant de la Russie, les Européens ont tenté hier de réagir avec ce mini-sommet organisé en urgence à l'Élysée à Paris. Ils se sont promis de se donner les moyens pour assurer eux-mêmes leur sécurité. Et la fameuse règle des 3% de déficit imposée par les traités européens semble caduque. Même l'Allemagne est prête à l'abandonner. Alors, qu'en pense-t-on dans la classe politique française? Voici ce qu'en disait ce matin à l'Assemblée nationale le député du Modem, Frédéric Petit.
J'ai toujours dit que l'investissement, c'était pas de la dette. Si on investit, c'est de la dette, mais c'est de la bonne dette, comme dans une famille. Et effectivement, les dépenses militaires, surtout en ce moment, c'est quelque chose qu'on pourrait sortir des dépenses de fonctionnement. Et bien évidemment, oui, c'est une idée intéressante. Alors nous, en France, on a fait cette loi de programmation, donc nous, ça va pas changer grand-chose. Mais effectivement, je pense que ça peut aider des pays à penser investissement au lieu de ne penser que comptabilité annuelle, bien évidemment.
Frédéric Petit, député centriste. Même tonalité à gauche avec le député écologiste Benjamin Lucas.
Je suis depuis longtemps un adversaire de ce dogme absurde de la règle des 3%. Nous considérons qu'il faut s'en affranchir quand il y a une crise sanitaire pour la transition écologique, pour l'investissement dans la bifurcation écologique. Et évidemment, face à des défis colossaux, qui est la capacité de l'Europe à exister sur la scène mondiale. Enfin, il faut qu'on se réveille. Il ne faut pas qu'on soit naïf. Monsieur Trump nous met au pied du mur. Nous sommes aujourd'hui pris en tenaille entre Monsieur Trump et Monsieur Poutine, dont aucun des deux n'a à cœur la survie du continent européen. Je pèse mes mots.
Le député écologiste Benjamin Lucas au micro de Victorien Villaume.
Et cette fois, le Liban, Florent, va saisir le Conseil de sécurité des Nations Unies.
En cause, l'armée israélienne qui se maintient dans le sud-Liban, dans 5 positions qu'Israël qualifie de stratégiques, alors même que c'est aujourd'hui qu'Israël devait avoir totalement évacué le pays en vertu de l'accord de cessez-le-feu du 27 novembre. Le Liban dénonce une occupation et les Nations Unies rappellent qu'il s'agit là d'une violation de la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU votée en 2006.
Et en ce qui concerne le cessez-le-feu dans la bande de Gaza, les négociations pour la deuxième phase devraient bientôt commencer.
Dès cette semaine même, selon Israël, qui pose quand même une condition majeure à terme, la démilitarisation totale de la bande de Gaza. On retrouve notre envoyé spécial à Jérusalem, Pierre-Olivier. Israël annonce aussi que des efforts sont en cours pour libérer davantage d'otages cette semaine. Israël, Pierre, devrait d'abord récupérer jeudi des otages morts en captivité.
Oui, ce matin, la presse ici évoque le chiffre de 4 otages morts qui devraient être échangés dans 48 heures, les premiers, mais le Hamas ne dévoilera les noms de ces otages que jeudi matin. Alors, sauf si, bien sûr, cette liste de noms fuite avant, Israël devrait prendre le temps d'identifier formellement les corps à l'Institut médico-légal où ils seront transférés avant d'en informer les familles. Une identification qui pourrait prendre jusqu'à 2 jours et qui devrait être suivie samedi d'un autre échange, cette fois de 6 otages vivants. Alors si ces 2 opérations sont un succès, il ne resterait alors plus que 4 otages à Gaza, tous présumés morts sur les 33 qui devaient être libérés dans le cadre de cette première phase de l'accord de cessez-le-feu, première phase qui se termine dans un peu plus d'une semaine maintenant, le 1er mars prochain.
Et donc Pierre, les négociations sur la deuxième phase devraient enfin commencer.
Oui, alors c'est en tout cas ce qu'assure ce matin le ministre israélien des Affaires étrangères, pour qui les pourparlers devraient commencer dans les jours qui viennent. Hier lundi, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a fait part à nouveau de sa position en marge d'un Conseil de sécurité. Sa position à savoir que selon lui, eh bien la guerre ne pourra pas se terminer tant que le Hamas sera au pouvoir à Gaza. Et puis vous l'avez évoqué, on l'a appris dans la matinée, Israël exige aussi une démilitarisation totale de l'enclave palestinienne. Bref, vous l'aurez compris, cette deuxième phase du cessez-le-feu semble encore aujourd'hui pour le moins floue et fragile.
Pierre-Olivier, en direct de Jérusalem.
On reste dans la région avec une vaste opération de police policière en Turquie contre le PKK, le Parti des Travailleurs du Kurdistan.
Et près de 300 arrestations pour terrorisme, selon la terminologie du gouvernement turc. Alors même que des négociations de paix ont lieu entre Ankara et le PKK, correspondance d'Anand Lauer.
Du point de vue du pouvoir turc, il n'y a pas de contradiction entre cette vague d'arrestations dans les milieux pro-kurdes et les négociations en cours pour obtenir la paix après plus de 40 ans de guerre contre le PKK. Dans les deux cas, il s'agit, selon les autorités, d'atteindre l'objectif, je cite, « d'une Turquie sans terrorisme ». Il s'agit surtout, sans doute, de ne pas relâcher la pression sur le mouvement politique kurde et de ne pas renvoyer une image de faiblesse à l'opinion publique alors que les négociations se poursuivent. Mais, aux yeux du parti pro-kurde légal, le DEM, troisième force politique au Parlement turc, ces arrestations, tout comme la destitution récente de plusieurs de ses maires, sont le signe d'un manque de sincérité du pouvoir dans ses efforts de paix, ou le signe que certaines forces au sein de l'appareil d'État tentent de saboter le processus. Il est clair que la possibilité d'une solution et d'une paix commence à faire perdre le sommeil à certaines personnes, a réagi le parti pro-kurde. Sauf obstacle de dernière minute, Abdullah Öcalan, le fondateur du PKK emprisonné depuis 26 ans, devrait appeler dans les prochains jours son organisation à renoncer aux armes et à s'autodissoudre. Anand-Laure Ankara, RFI.
Une information de dernière minute en provenance de Téhéran. L'Iran a arrêté un couple de Britanniques. Ils sont accusés d'espionnage. Ils étaient entrés dans le pays, dit la justice iranienne, en se faisant passer pour des touristes. Alors, toujours selon l'accusation iranienne, ils font partie de services de renseignement de pays hostiles et occidentaux. Fin de citation.
Dans le reste de l'actualité, Florent, de lourdes accusations contre les rebelles du M23 dans l'est du Congo, Kinshasa.
Oui, le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme dénonce des exécutions sommaires d'enfants lors de l'entrée du M23 dans la ville de Bukavu le week-end dernier. L'ONU demande au M23 et à son soutien rwandais de préserver les droits humains et le droit humanitaire international.
Des civils aussi pris pour cible au Mali.
Dans la région de Kidal, lors d'une opération menée par l'armée malienne avec le groupe Wagner, plusieurs véhicules ont été ciblés. Bilan, 28 passagers civils tués, dont des femmes et des enfants.
Et puis au Soudan aussi, des civils font les frais de la guerre entre l'armée régulière et les paramilitaires.
200 morts tués en 3 jours dans 2 villages du sud du Soudan. Attaque attribuée aux paramilitaires par un groupe d'avocats qui documente les violations des droits humains depuis le début de cette guerre civile. Il y a aussi à des centaines de personnes blessées et portées disparues.
On reviendra évidemment sur toutes ces informations dans Afrique Midi d'ici moins d'une demi-heure. En France, deuxième jour du procès des geôliers de l'État islamique.
5 membres du groupe djihadiste sont sur le banc des accusés à Paris, dont Mehdi Nemouche, déjà condamné à la prison à vie pour la tuerie du musée juif de Bruxelles. Tous sont accusés d'avoir participé à la détention et à la torture de 4 otages français, 4 journalistes, dont Nicolas Hédin, qui compte bien sur ce procès pour témoigner sur les rouages du groupe État islamique.
J'étais encore journaliste quand j'ai été pris en otage. J'ai beaucoup observé. J'ai essayé d'enregistrer autant que possible tout ce que je pouvais voir parce que nous étions en fait dans la matrice de Daesh. Nous étions dans cet État islamique qui était en train de se former et au sein de cet État islamique, nous étions dans la cellule qui ensuite allait produire les attentats, notamment sur le sol européen. Donc nous avons beaucoup à raconter de ce que nous avons vu. C'est un peu la contradiction avec les survivants d'attaques terroristes. Une partie de nous nous met sous tension de tourner la page. On veut sortir de ce qui nous est arrivé. Et une autre partie nous interdit d'oublier. Parce que on doit pouvoir confronter les auteurs à leurs actes et qu'on doit aussi transmettre, donner des leçons pour que ça n'arrive plus. Faire un travail éducatif. On a un rôle social, j'y crois très sincèrement, nous en tant que survivants d'attaques terroristes, aussi au nom de tous ceux qui ne sont plus là, qui ne pourront pas témoigner parce qu'ils ont été assassinés par nos ravisseurs.
Nicolas Hénin au micro de Laura Martel.
On termine avec le 43e prix RFI découverte attribué à
Queen Rima, chanteuse guinéenne de 27 ans, pionnière dans le dancehall. Queen Rima a été choisie par une autre queen, Angélique Kidjo, qui présidait le jury de ce prix RFI découverte. Et on écoute un des titres de Queen Rima, Boss Up.
Fosse blende, allo blonde, ngafu bonde, bonde, mo ana system, ngafu shoot, awa shoot them, awa shoot them. Tumukone mal, 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 m
maman. Dites à mes gars qu'on a là, voyons là. Eh, tu me connais mal, maman. Tu me connais mal. Oui, ma queen dans les bacs, ça fait péter, nègre. Tu me connais mal. Dites au voyons, ma, il fait mal. Eh, tu me connais mal.
Boss Up par Queen Rima, nouveau prix découverte à RFI. Elle sera l'invitée exceptionnelle de Claudie Cyr. Ce sera ce soir sur RFI dans Couleur Tropicale à partir de 20h10, temps universel. Pour l'heure, il est midi 15 en temps universel, 13h15 à Paris. RFI Midi continue avec vous, Grégoire Morelli.
Eh oui, merci à vous. C'était le journal de Florent Guignard. Restez avec nous, donc ça continue. Les sports donc avec Olivier Bon. Bonjour Olivier.
Bonjour Grégoire, bonjour à tous.
Du football bien sûr au programme avec la Ligue des Champions et le début ce soir des barrages retour.
Ah bah oui, cette nouvelle mouture de la Champions comme on l'appelle ne s'arrête jamais. Objectif 8e de finale donc, 4 matchs dès ce soir. 17h45, temps universel, le Milan AC accueille le Feyenoord Rotterdam, vainqueur 1-0 à l'aller. 20h, TU l'Atalanta Bergame avec le Nigérian Ademola Lookman de retour va devoir s'arracher pour combler son retard sur le club Bruges qui s'était imposé 2-1 chez lui. Monaco, de son côté, va tenter d'inverser la tendance également au Benfica Lisbonne, qu'il avait emporté 1-0 sur le Rocher mercredi dans un stade de la Luz qui pourrait très bien porter son nom pour les rouges et blancs. Chez eux, les Lisboètes sont donc favoris, mais les Monégasques, malgré de nombreux joueurs absents, y croient. Ça tombe bien. Il faut dire qu'ils ont repris confiance après avoir écrabouillé Nantes ce week-end en championnat. C'était samedi. Et pour leur entraîneur Adi Hütter, cela peut être capital pour réaliser un exploit à Lisbonne.
Oui, Benfica a l'avantage après le résultat à Monaco, mais nous sommes ici et nous ne voulons pas être un gentil adversaire. Nous voulons nous concentrer sur ce match à élimination directe et nous sommes ici pour faire tout ce que nous pouvons pour le gagner. On sait aussi que dans ce stade, il y a cette folle ambiance. Ce sera difficile, mais nous devons être convaincus que nous pouvons gagner ici. Pour cela, nous avons besoin d'une performance au top. Ils sont les favoris. Ils ont un avantage sur le résultat. Mais le favori ne gagne pas toujours, et c'est notre chance. Et mes joueurs, après le 7-1 contre Nantes samedi, ont vraiment une grande confiance. Ils sont prêts, ils veulent se battre, et on verra ce qui se passera sur le terrain.
Et du côté du Benfica, on en dit quoi?
Qu'on n'est pas encore qualifié et qu'il y a encore du boulot à faire malgré cette absence quand même, dont celle d'Angel Di Maria, Bruno Lage, l'entraîneur.
Mais important do que tipo de Monaco é que tipo de Benfica. É um Benfica que não pode pensar nas.
On ne peut pas penser aux deux victoires précédentes contre Monaco. On ne peut pas jouer pour le résultat. Notre détermination doit être de jouer un grand match et de jouer à notre meilleur niveau dans cette compétition pour pouvoir continuer dans cette Ligue des Champions.
Quer para nós porque se ganhamos em frente, quer para o clube pelo prestígio internacional.
Et international, fait... hein. Vous dites, Benfica Monaco, 20h temps universel.
Oui, d'abord. Et j'ai compté, ça fait 3 matchs, Olivier. Il en manquait un pour ce soir.
Le Bayern Munich. Avec Harry Kane, a priori, bien qu'il ne se soit pas entraîné hier. Le Bayern donc reçoit le Celtic Glasgow après s'être imposé 2-1 déjà en Écosse la semaine dernière. Les Allemands sont en ballotage très favorable, mais leur entraîneur, Vincent Kompany, se méfie de ces Écossais accrocheurs et buteurs.
Quand vous jouez contre des équipes qui ont l'habitude d'être très dominantes dans leur championnat, cela signifie qu'elles ont l'habitude aussi de marquer beaucoup de buts. Et c'est forcément toujours un danger tout le long des matchs. C'est ce que le Celtic a montré chez lui à l'aller. Je pensais que nous avions plutôt bien géré la situation en première mi-temps et ça s'est compliqué ensuite. Nous n'en sommes qu'à la moitié de notre confrontation et les paramètres n'ont pas changé. C'est une équipe qui est vraiment dangereuse et nous allons devoir l'être aussi. C'est un match à domicile et nous devons faire en sorte que cela tourne à notre avantage.
Le Bayern de Vincent Kompany face au Celtic Glasgow, 20h temps universel. On rappelle que demain, auront lieu tous les quatre derniers matchs, hein, les quatre derniers barrages retour, avec notamment un passionnant Real Madrid-Manchester City, 3-2 à l'aller pour les merengués. Cédric De Oliveira sur place à Bernabeu avec Pierre Chaperon pour nous raconter tout cela au cours d'une nouvelle soirée spéciale sur la Radio du Monde. Babacar Diarra en studio ici avec Patrick Juillard et Sofiane Amazian. On ne lésine pas sur les moyens au Parc des Princes pour PSG Brest, une folie.
Merci à vous, c'était le journal d'Olivier Pron, le journal des sports.
RFI Midi.
Grégoire Morelli.
Une réunion à Riyad entre Russes et Américains. Reprise des contacts entre les deux puissances à la faveur d'une médiation saoudienne. Avec nous pour en parler cet après-midi, Bertrand Besancenot. Bonjour.
Bonjour, pardon.
Je vous en prie, vous êtes ancien ambassadeur en Arabie Saoudite, ancien ambassadeur de France, bien sûr. Vous êtes également expert du Moyen-Orient et vous avez conseillé Emmanuel Macron sur les questions géopolitiques. Bertrand Besancenot, lors de ces discussions à Riyad, il devrait être question de l'Ukraine. Comment interprétez-vous cet engagement de l'Arabie Saoudite sur le dossier ukrainien ?
Bah, écoutez, en tout cas, ces efforts faits par l'Arabie Saoudite, que ce soit d'ailleurs sur le dossier ukrainien, mais également sur le dossier palestinien, on y viendra peut-être, reflètent en tout cas la place acquise par la diplomatie saoudienne sur les grands sujets d'actualité de l'heure. Alors, sur la négociation américano-russe sur l'Ukraine, bon, il y a cette rencontre aujourd'hui des ministres des Affaires étrangères et il y a naturellement un projet de sommet entre le président Trump et le président Poutine, peut-être d'ici la fin de la semaine. Ce qu'il faut rappeler simplement, c'est que sur le conflit russo-ukrainien, l'Arabie saoudite a déjà joué un rôle, notamment dans l'échange de prisonniers russes et ukrainiens, et elle a également accordé une assistance humanitaire significative à l'Ukraine. Mais je ne crois pas qu'elle aura un vrai rôle de médiation entre Russes et Américains sur l'Ukraine. Elle joue en réalité plutôt les bons offices, ce qui en soi est appréciable, et elle fait un joli coup de diplomatique, parce que ça va lui permettre probablement d'attirer le président Trump à Riyad pour sa première visite à l'étranger. C'est en tout cas ce que les Saoudiens souhaitent. Et ça permet d'accueillir le président Poutine dans un pays qui n'est pas engagé auprès du tribunal international. Donc effectivement, ce qui explique que la réunion n'ait pas lieu par exemple à Genève. Donc tout ceci permet à Riyad de rehausser son image diplomatique en tant que pays important, autonome, qui parle à tout le monde et qui rend service. Alors, cela étant, la rencontre au sommet Trump-Poutine à Riyad n'est pas encore confirmée à ma connaissance, même si, encore une fois, elle est très probable.
Mais alors, je reprends un peu ce que vous dites. Selon vous, il s'agit plus là d'un coup de communication. L'Arabie saoudite ne dispose pas d'atouts pour se positionner en tant que médiateur ?
Bah, écoutez, dans la négociation sur l'Ukraine, naturellement, il y a des choses tout à fait différentes, c'est-à-dire que les Russes et Américains font une première rencontre qui, à ma connaissance, est surtout une rencontre pour reprendre le contact. Il ne faut pas oublier que depuis des années, il n'y a plus de contact réel, direct entre Américains et Russes, et que cette réunion est d'abord une reprise de contact, ce qui en soi, naturellement, est déjà un succès pour Poutine, en ce sens qu'il peut apparaître comme moins isolé et qu'il peut parler à nouveau entre grands de ce monde. Ce que veut faire le président Trump, lui, est différent. Il veut faire un deal rapide, comme il l'a promis dans la campagne. Et la réalité, c'est que lui, il ne s'intéresse pas particulièrement aux accords ou au droit international. Et il veut récupérer l'argent américain dépensé en soutien à l'Ukraine, en proposant l'exploitation par des sociétés américaines des métaux rares. Il est donc, à mon sens, prêt à faire un deal. Mais pas aux conditions ukrainiennes. Donc, ce n'est pas tout à fait par hasard si le président Zelensky n'a pas accepté les propositions qui lui avaient été faites. Ce qui amène effectivement le président Zelensky à se tourner vers les Européens. Mais enfin, ça, c'est une autre histoire. Les Saoudiens eux-mêmes, je l'ai dit, ont été impliqués sur le dossier ukrainien, mais pas réellement sur la substance. Ça a été des échanges de prisonniers, une assistance humanitaire. Et là, ils font office d'hôtelier, si je puis dire, mais je ne pense pas qu'ils auront un rôle sur la substance, proprement dite, des négociations sur l'Ukraine.
Très bien, on l'entend tout à fait, mais tout de même, il y a quelque chose d'intéressant à noter entre l'affaire Khashoggi en 2018 et le retour sur la scène internationale du prince héritier Mohamed Ben Salman. Comment, durant ce laps de temps, il a réussi à s'imposer néanmoins sur le plan diplomatique ?
C'est-à-dire que de toute façon, l'Arabie saoudite montre aujourd'hui qu'elle est incontournable pour régler les problèmes de la région, qu'il s'agisse de la question palestinienne ou qu'il s'agisse des relations avec l'Iran. Vous avez vu donc qu'aujourd'hui, la priorité pour les Saoudiens, c'est d'abord de réussir ce qu'on appelle la vision 2030, c'est-à-dire leur programme de réforme, et ce qui implique qu'il n'y ait pas de confrontation au Moyen-Orient. Donc, si vous voulez, ils ont repris le dialogue avec Téhéran. Et d'un autre côté, sur le dossier palestinien, il est clair que, qu'aujourd'hui, pour ce qui est de la reconstruction de Gaza et au-delà, ce seront naturellement les pays du Golfe et l'Arabie Saoudite qui seront en première ligne. Et puis surtout, sur le plan politique, on voit bien que le président Trump cherche absolument à obtenir une normalisation entre Israël et l'Arabie Saoudite. Parce que, naturellement, enfin, pour lui, ce serait un succès diplomatique. Il le fait aussi parce que, comme il entend se désengager partiellement du Moyen-Orient, comme de l'Europe d'ailleurs, et donc pour ce faire, il doit s'appuyer sur une coalition des alliés des États-Unis, c'est-à-dire Israël et les pays du Golfe, ce qui veut dire une normalisation entre Israël et l'Arabie Saoudite. Mais là, si vous voulez, le prince héritier saoudien a bien compris qu'il détenait là une carte importante vis-à-vis de Trump, et il raisonne en termes transactionnels.
Très bien.
Donc il faut s'attendre à ce qu'il y ait une négociation très serrée entre Trump et MBS sur la question palestinienne, comme d'ailleurs sur le pétrole.
Et ce sera le mot de la fin. Merci à vous, Bertrand Besancenot, ancien ambassadeur de France au Qatar et également en Arabie Saoudite, expert du Moyen-Orient, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions cet après-midi.
RFI Midi.
Le Mining Indaba, l'incontournable sommet sur les mines en Afrique, s'est déroulé au début du mois, du 3 au 6 février précisément, dans la ville du Cap, en Afrique du Sud. Selon les estimations, le continent détient 30% des réserves en minerais critiques, essentiels pour la transition énergétique. Parmi les grands habitués du salon, les Américains qui envoient habituellement une importante délégation. Et cette année, le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche semble modifier les dynamiques et les partenariats pourraient être amenés à évoluer. C'est un reportage sur le Mining Indaba signé Claire Bargelès.
La délégation américaine s'est réduite comme une peau de chagrin cette année, tant sur la scène du Mining Indaba que dans les allées du salon. Seul représentant à prendre la parole, Scott Woodard, le secrétaire adjoint par intérim spécialisé sur les questions de transformation énergétique auprès du département d'État. Il est resté très vague sur la politique minière à venir.
L'un des premiers décrets signés par le président dès son arrivée au pouvoir concerne l'extraction et la transformation de minerais, surtout aux États-Unis. Mais si on le lit de plus près, il y est aussi fait mention à de multiples reprises des partenariats internationaux et de la coopération avec d'autres nations.
La nouvelle administration ne s'est pas encore totalement installée et on attend toujours la nomination de l'équipe Afrique de Donald Trump, bien que son ancien envoyé spécial pour le Sahel et les Grands Lacs, Peter Pham, soit pressenti. Selon les experts, le corridor de Lobito devrait continuer à être développé. La modernisation de cette ligne ferroviaire pour faciliter le transport de minerais de la RDC et de la Zambie vers l'Angola afin de les exporter depuis la côte ouest du continent rentre dans la logique de concurrence avec la Chine. Mais un point d'interrogation flotte au-dessus d'autres partenariats, selon Vincent Rouget du cabinet Contrôle Risque.
Les compagnies continuent, mais après, elles ont souvent besoin de certains mécanismes d'aide de l'État américain pour finalement dérisquer certaines transactions qui pourraient être dans des pays compliqués ou des nouveaux marchés. On voyait souvent l'État américain intervenir soit par les biais de la diplomatie pour faciliter les échanges, les négociations, soit par le biais d'aides financières ou de garanties, de prêts. Et là, on a un point d'incertitude, voilà, sur est-ce que ça va continuer pour l'instant. C'est trop tôt pour le savoir.
Côté sud-africain, le ministre des Mines, Gwede Mantache, souhaite durcir le ton pour répondre au gel de l'aide américaine décidé par Donald Trump.
S'ils ne veulent plus nous donner d'argent, ne leur donnons pas de minerais. Nous avons des minerais sur ce continent, donc nous possédons quelque chose. Nous ne sommes pas de simples mendiants. Nous devons utiliser cette richesse à notre avantage en tant que continent.
For our benefit as a continent.
Les doutes planent aussi au-dessus de la volonté des États-Unis de continuer à développer les chaînes de valeur ajoutée en Afrique, comme dans le cadre de l'accord signé avec la Zambie et la RDC pour fabriquer sur place des batteries électriques. Claire Bargelès, de retour du Cap, RFI.
Midi 28, en temps universel, restez avec nous sur RFI dans une minute, c'est le début d'Afrique Midi.
Tout à l'heure sur RFI, de vive voix, Pascal Paradou.
À Louga, dans le nord du Sénégal, les contes et les épopées ont la vie dure. Pour raconter l'histoire des anciens royaumes, éduquer les enfants, conteurs et griots ont plus d'un mot sur la bouche et pas des mots à la légère, selon Youssour Margane, déclaré trésor vivant en son pays.
De vive voix, du lundi au jeudi à 13h30 TU sur RFI.
Je suis japonaise et j'écoute le journal en français facile depuis 2 ans.
Le journal en français facile, Adrien Delgrange.
Je vous retrouve du lundi au vendredi pour un journal d'information internationale. 10 minutes pour mieux comprendre l'actualité mondiale en français.
Le vocabulaire est moins compliqué que...